Voilà, nous allons ouvrir le Saint-Livre dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 30, verset 11. Nous ferons les annonces à la fin de la réunion. Dans la prédication, il y a certaines choses que je vais dire qui seront surtout attribuées aux pasteurs qui m'écoutent. Vous savez que par rapport au site internet, il y a beaucoup de pasteurs qui m'écoutent. Et je pense, quand je me suis préparé, que certaines choses seront pour eux. Deutéronome, chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre ?» afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Deuxième lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, s'il vous plaît. Cette fameuse histoire que Jésus a racontée, c'est le Seigneur Jésus qui la raconte. Il sait ce qu'il dit. Luc, chapitre 16, verset 19 au verset 31. Évangile de Luc 16, 30, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi !» et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Amen. La preuve, c'est que quelques jours après, Jésus est mort et qu'il est ressuscité et que les gens doutent toujours. Dimanche dernier, je me suis autorisé, après le culte, à parler à certains de nos enfants dans l'église, de nos enfants qui ont déjà de l'âge, et à les presser à réfléchir. Vous connaissez, vous rappelez la prédication de dimanche dernier, la cognée est mise à la racine des arbres, pour indiquer que si nous ne nous occupons pas des racines, eh bien Dieu devra sectionner l'arbre, ce qui indique que le jugement viendra sur ceux qui ne se préoccupent pas de leur vie spirituelle. Alors certains ont été peut-être étonnés de mon insistance, je ne sais rien, ça c'est moi qui l'ai déduit, mais vous savez, la Bible demande d'insister en toute occasion. Et je crois que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, je crois que c'est une occasion. Non. C'est une occasion et c'est un devoir pour les pasteurs parce que la Bible dit qu'ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. On ne le fait pas par envie personnelle, on le fait parce qu'on est poussé à le faire. Et vous savez, j'ai réfléchi quand je dis quelque chose, des fois à quelqu'un, et que je vois sa réaction, quand même, comme tout être humain, je réfléchis. Aurais-je dû le dire autrement, ou n'aurais-je pas dû le dire, etc. Et toute cette semaine, j'avais ce verset, le mot de ce verset qui me revenait en boucle, insiste. Je me suis posé la question si ce brave homme riche, qui ne l'était plus trop après, revenait sur terre pendant un quart d'heure dans l'église de Sainte-Agne pour prêcher l'évangile. Si le 29 mai 2016, Dieu avait autorisé cet homme à venir prêcher l'évangile dans l'assemblée de Dieu de Toulouse de Sainte-Agne, comment prêcherait-il? D'après vous? Avec certainement beaucoup de ferveur. Je me doute qu'il se pourrait même que cet homme passe la prédication à genoux en train de nous supplier de faire la paix avec Dieu. Toute cette semaine, je réfléchis. Vous comprenez bien que quand on doit prêcher la parole de Dieu, on réfléchit, on prie, on analyse. Enfin, on analyse, oui, entre guillemets, le mot n'est pas correct, mais enfin, on médite. Et je me suis vraiment posé la question. Vraiment, écoutez bien, mes frères et sœurs. Vraiment poser la question, parce que beaucoup de pasteurs n'osent plus aujourd'hui prêcher la repentance, prêcher la sainteté, prêcher la conversion, la nouvelle naissance, l'obéissance, tout simplement par peur de perdre des âmes qui sont déjà dans le troupeau. C'est un vrai, vrai dilemme pour beaucoup de pasteurs. Et ça devient un combat, à tel point que beaucoup de pasteurs démissionnent. C'est un grand, grand sujet aujourd'hui. Il nous est demandé de prêcher la parole, d'insister, de reprendre, de censurer. C'est sérieux l'Église. L'Église, ce n'est pas un club de joyeux chrétiens qui sont contents de se retrouver, même si la communion fraternelle est une grande bénédiction. Oui ou non? Est-ce que vous connaissez le frère ou la sœur qui est à côté de vous? Est-ce que vous pouvez dire, ma sœur, je suis heureux que tu sois mon frère? Est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que, regardez celui qui est à côté de vous, ou celui qui est en face de vous, regardez-le et dites, mais est-ce que c'est vraiment un frère? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'avoir des frères et des sœurs? Est-ce que vous réalisez le bienfait de la communion fraternelle? C'est un bienfait? C'est un bienfait? Jonathan, est-ce que tu es content de la sœur qui est à côté de toi? Oui, bon, il vaut mieux. C'est une grande bénédiction. Mais l'Église n'est pas un club religieux où nous jouissons de la communion fraternelle. L'Église, c'est la maison de Dieu où la croix est prêchée. Et il a plu à Dieu de sauver les croyants, tenez-vous bien, les croyants par la folie de la prédication. Même les croyants ont besoin de réentendre, peut-être même en boucle, la prédication de la croix. Parce que de toute façon, ce n'est qu'au calvaire que nous retrouvons même tout ce que nous avons perdu. Rappelez-vous, cet homme qui avait perdu le fer de sa hache, il aurait dû s'en douter. Bon, il a fait une erreur, c'est pas grave. Mais c'est le bois qui a été jeté dans l'eau qui a fait remonter le fer. Dieu est le Dieu du surnaturel. Et à la croix, les victoires se remportent. Et c'est à la croix ce matin que s'il y a quelqu'un qui veut passer des ténèbres à la vie éternelle, eh bien pourra y passer. C'est que par la croix. C'est une occasion ce matin. Jésus sachant très bien ce qu'il avait à nous dire, parce que quand même, s'il y a bien quelqu'un de bien placé pour nous parler de l'au-delà, je pense que c'est le Seigneur Jésus. Oui ou non? Quand même. Quand je vois qu'il y a des gens qui remettent en question, est-ce que c'est qu'une parabole? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu a voulu nous dire? Écoutez, quand Dieu parle qu'il y a un paradis et quand Dieu parle qu'il y a un lieu de tourment, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. C'est extrêmement sérieux. Il y a ceux qui sont dans le sein d'Abraham. Vous avez connu plein de gens qui sont morts? Oui ou non? Eh bien, c'est l'un ou l'autre. Ou ils sont au paradis, ou ils sont dans un lieu de tourment. C'est l'un ou l'autre. Qu'ils soient religieux, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent parce qu'ils sont religieux, parce qu'ils ont pris le baptême. C'est beaucoup plus sérieux que ça. L'Église, c'est beaucoup plus sérieux que de faire partie d'une dénomination. C'est beaucoup plus sérieux que de prendre le pain et le vin, même si ça doit être une immense bénédiction pour celui qui est en communion avec Dieu, quoique c'est aussi une bénédiction pour celui qui veut revenir vraiment à la croix. Alors, je pense, parce que je vous comprenez, mon temps aujourd'hui, depuis que j'ai fait mon AVC, je l'utilise beaucoup pour chercher Dieu, parce que c'est quelque chose que Dieu m'a demandé. Et par exemple, je vais vous parler d'un travers qu'on a, dans le milieu religieux. On cite souvent en boucle dans nos prédications Jean 3,16. Qui ne connaît pas Jean 3,16? C'est un verset que tout le monde le connaît, oui ou non? Bien sûr, si vous venez pour la première fois, ne vous traumatisez pas, c'est un peu normal que vous ne le connaissez pas. Tout le monde connaît Jean 3,16. Et il est régulièrement cité, continuellement cité, c'est peut-être le verset que tous les chrétiens connaissent par cœur, parce qu'on le cite, et c'est bien. Mais voyez, ça a fait perdre certaines vérités. Regardez avec moi, je ne sais pas si vous connaissez le psaume 5, verset 6. Cette semaine, je me suis beaucoup arrêté sur ce genre de verset. Est-ce que vous connaissez le psaume 5, verset 6? Et on devrait connaître autant le psaume 5, verset 6 que Jean 3,16. Vous allez comprendre où je vais en venir. Parce que Dieu bénit, vous croyez que Dieu bénit sa parole? Dieu bénit que sa parole. Il honorera ce qui honore sa parole. Ce n'est pas compliqué. Mais regardez le verset 6, le verset 6b du psaume 5. Regardez-le bien, s'il vous plaît. Vous savez, c'est quand même des paroles, ça vient de Dieu. Vous le croyez que les psaumes viennent du Seigneur aussi? Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Regardez bien la deuxième partie. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Vous y êtes? Donc il y a Jean 3,16, où Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors il y a des gens qui s'imaginent, eh bien Dieu nous aime, donc le problème est réglé. Mais le problème, il n'est pas réglé parce que Dieu nous aime. Il y a plusieurs textes bibliques qui nous montrent que Dieu, non seulement Dieu est le péché, mais les pécheurs qui veulent rester dans l'iniquité n'ont pas du tout l'approbation de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et on a tellement récité en boucle ce verset que beaucoup de gens se sont dispensés de se repentir vraiment parce qu'on peut, se comparer. On peut se comparer. Premièrement, je peux me comparer. Mais moi, quand même, j'ai jamais brûlé une bagnole. J'ai jamais fait ci. Toi, jeune fille, peut-être tu dis, mais moi, quand je vois cette fille de mauvaise vie, la vie qu'elle a, c'est scandaleux. Elle, il faut qu'elle se convertisse. Elle, il faut qu'elle arrête son péché. Quand je vois ce criminel, franchement, ce qu'il a fait. Mais moi, à côté, quelqu'un m'a dit dernièrement, quelqu'un qui faisait partie de cette église, dernièrement, qui vivait dans l'immoralité, il m'a dit, mais moi, quand je vois les gens, comment ils vivent, moi, mon immoralité, je pense que Dieu l'accepte. C'est pas vieux. Et ça s'est passé ici. C'est pour vous dire combien les gens s'autorisent à ne pas obéir parce qu'ils se comparent à des gens qui vivent dans le péché. Et c'est grave, ça. Et ça s'appelle de la légèreté. Rappelez-vous l'exemple de Belshazzar. Quand on finit par jouer avec la parole de Dieu, ça finit toujours très mal. C'est un devoir pour les pasteurs de prêcher l'amour de Dieu, mais de prêcher aussi l'enfer, la damnation éternelle. Dieu ne peut pas bénir un pasteur. Écoutez bien, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour les pasteurs qui m'écoutent. Dieu ne peut pas bénir un pasteur qui ne prêche que sur l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu bénit ceux qui honorent sa parole. Jésus parle de l'amour de Dieu, Jésus parle de la damnation éternelle. Et s'il y en a un qui en parle, c'est bien lui. L'importance de se repentir. Pourquoi? Parce que la colère, elle vient. Et quand je vous parlais de ce brave homme riche qui est aujourd'hui dans ce lieu de tourment, est-ce une histoire vraie? Est-ce une histoire que Jésus a tirée des faits d'actualité? En tous les cas, une chose est sûre, ça se passe comme ça. Et si ce brave homme, il était là ce matin, je peux vous dire, c'est à genoux, certainement avec larmes, qu'il hurlerait. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, les jeunes. Vous qui n'êtes pas baptisés, et vous qui m'écoutez, qui êtes légers avec la parole de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Tous les chrétiens, bien les croyants convertis, les pécheurs qui flirtent avec cette affaire, presque tous, je le sais parce que c'est quelque chose que Dieu m'a montré, vont être furieux le jour de l'enlèvement. Furieux. Parce que les pasteurs n'auront pas insisté. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les vierges folles, qu'on appelle, celles qui attendaient le maître, des chrétiens qui croyaient en Dieu, qui attendaient le maître, elles représentaient vraiment des pentecôtistes, puisqu'elles avaient une lampe et de l'huile, c'était des gens qui avaient l'esprit. C'est évident. Mais qui n'ont plus. Et toutes ces vierges folles, cataloguées de folles par le Seigneur Jésus lui-même, sont folles, complètement folles, parce qu'on est complètement fou quand on néglige sa communion avec Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Toutes ces vierges folles seront furieuses, tous ces chrétiens, pas prêts, seront furieux pour la simple unique raison que les pasteurs n'auront pas supplié les gens de se réconcilier avec Dieu. Et beaucoup trop d'églises sont en train de se transformer en centres sociaux, en centres culturels, même pas culturels, où on met en avant le social, où on met en avant la banque alimentaire, où on met en avant la friperie, où on met en avant tout un tas de choses, et des activités, de l'ambiance. Non, je ne suis pas contre, puisque la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais l'œuvre de Dieu ne se fera pas avec le social. L'œuvre de Dieu se fera avec la prédication de la croix. Et moi, je vous le dis parce que Dieu m'a poussé à le dire. Je ne vous le dis pas parce que j'ai envie de vous le dire, ou parce que si, parce que ça ne vient pas de moi. Je sais que ça vient de Dieu. Pour ceux ici qui ne sont pas encore baptisés, ce n'est pas le baptême qui sauve, mais le baptême est quand même un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui fait que l'on prend position. C'est comme quand on se marie, on s'engage. On s'engage à ce que cette jeune fille devienne notre épouse. Voilà, c'est un engagement, c'est sérieux le mariage. Mais à la limite, je veux dire quelque chose, ne le prenez pas mal. Si vous échouez dans votre mariage, moi je vais vous dire que c'est pas bien, c'est sûr. Mais c'est pas éternellement grave. Tandis que si vous échouez spirituellement, ça c'est grave. Il y a des gens, ils se traumatisent, comme un jour un divorcé, mais je sais pas si j'ai lu un verset que Dieu est le divorce. J'ai dit, mais il n'est pas dit, Dieu est les divorcés. Vous voyez comment on a vite fait de dire n'importe quoi. Et j'ai dit, dans le ciel, il y aura plein de gens qui sont divorcés, et il y aura plein de gens mariés qui seront en enfer. Le problème, il n'est pas, le salut ne dépend pas de ça. Enfin, là, je faisais une petite digression. Mais c'est pour vous expliquer que la vie éternelle, c'est sérieux. Et que je me dois de vous supplier, vous qui n'êtes pas baptisés. Vous savez que je ne suis pas du style à pousser les gens à prendre le baptême. Au contraire, je dis réfléchissez. Mais quand même, ça prouve qu'un choix a été fait. Je choisis de donner ma vie à Jésus-Christ. Ou je choisis de la lui redonner. Est-ce que ça peut arriver qu'on se loupe? Est-ce que David n'a pas fait la comédie pendant un an, malgré l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce qu'il n'a pas fait la comédie pendant un an? Pendant un an, il a joué la comédie. Le grand roi David, qui avait la faveur de Dieu, qui était selon le cœur de Dieu, il a fait la comédie. Nous aussi, on l'a tous fait à des moments, oui ou non? Plus ou moins, il y a des bons acteurs, plus que d'autres. Mais mes frères et sœurs, Dieu voit quand quelqu'un est sérieux avec une parole, quand Dieu dit aux Corinthiens, je vous en supplie, c'est quand même Dieu qui parle. Qu'un clochard dise à un autre clochard, je t'en supplie, donne-moi de ton pain, tout ça, bon, ça tient debout. Mais que le président de la République dise à un clochard, je t'en supplie, il te faut être réconcilié avec moi, il y a quelque part une raison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui ou non? Si Dieu, mais il faut réfléchir, frères et sœurs, si Dieu supplie les hommes de se réconcilier avec lui, c'est qu'il doit y avoir un gros problème si ça ne l'est pas. Et que nous devons absolument vous supplier d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est vous qui le ferez. Je peux vous supplier pendant 3 heures ou pendant 6 heures, si vous voulez que je prêche jusqu'à 4 heures d'après-midi, dites-moi-le. Est-ce que ça changera quelque chose? Non, c'est une décision sérieuse, solennelle. On est dans la maison de Dieu. Le plus important dans un pays, c'est l'église de Jésus-Christ. Vous le croyez ça? Parce qu'on s'occupe des choses éternelles. Et c'est archi grave. Cette semaine, il y a un pasteur qui m'a appelé. Il était désemparé. Il était, mais découragé. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Parce qu'il a appris qu'il y avait un chrétien qui vivait depuis, dans l'église, qui vivait depuis 30 ans dans un péché des plus grossiers qui existent. Il était catastrophé. 30 ans de péché grossier, le gars pendant 30 ans qui prend la Sainte-Seine et qui fait du cinéma pas possible. Est-ce que Dieu veut le bénir cet homme? Oui, mais moi je crois qu'au bout de 30 ans, on doit avoir endurci son cœur, vraiment. Et quand Dieu supplie les chrétiens de Corinthe, qui pourtant étaient une bonne église, mais certains n'allaient pas du tout, je vous en supplie, soyez réconciliés, c'est parce que c'est sérieux. D'autant plus, mes frères et sœurs, que la colère arrive, que notre vie ne nous appartient pas. Votre vie vous appartient pas. Ne pensez pas parce que vous avez des rhumatismes et que vous avez un gros problème physique, que vous allez mourir dans 3 mois, et ne pensez pas parce que vous avez 20 ans que vous allez vivre. C'est peut-être le dernier appel que vous entendez, oui ou non? Est-ce que ça pourrait arriver pour quelqu'un qui m'écoute sur Internet ou pour quelqu'un qui est là ce matin que c'est la dernière fois que vous entendiez l'appel de la croix? Mais oui, ça peut arriver. Je me souviens quand on faisait l'écolo, il y avait une jeune fille, elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans, elle est arrivée, je me rappelle, on faisait une randonnée à vélo. Et puis elle est arrivée, je leur avais dit surtout, quand vous arrivez où il y a du gravier, ne freinez pas avec le frein avant. Elle est arrivée, bien sûr, elle a freiné à fond, avec le frein avant, elle s'est râpée toute la jambe. On l'a soignée avec Isabelle et tout ça. Elle avait 15 ans. Et on lui a demandé son prénom, comment tu t'appelles, Valérie, etc., etc. Et est-ce que tu as donné ton corps au Seigneur? Elle me regarde, mais elle me dit, mais Gérard, j'ai 15 ans. Et regarde, moi j'étais vieux, j'en avais 30. Elle me dit, mais j'ai 15 ans. Elle me dit, mais tu rigoles. Je dis, Valérie, ta vie t'appartient pas. 3 mois après, elle était morte. 3 mois après. Et elle avait donné son corps au Seigneur, parce je lui ai dit, Valérie, ta vie t'appartient pas. Regarde, tu t'es pris une gamelle à vélo, tu aurais pu mourir. Est-ce qu'on peut mourir d'une chute à vélo? Eh oui, est-ce que je peux tomber tout à l'heure, me taper la tête et mourir? Mais oui, notre vie ne nous appartient pas. Et quand Dieu supplie les gens, il faut qu'on soit sérieux. Il ne faut pas lire ça, là, bon, Dieu supplie, bon, c'est peut-être une figure de style, une façon que... Non! Quand Jésus parle sur le lieu de tourment et sur le paradis, il faut qu'en sortant tout à l'heure de ce culte, vous puissiez dire, oui, j'irai au ciel. Je ne suis pas parfait, j'ai des manquements, j'ai des faiblesses, je ne suis pas comme je devrais être, j'en ai honte. Mais je sais que je suis couvert par le sang du Seigneur. J'ai accepté Jésus-Christ, la prédication de la croix a touché mon cœur. C'est de la folie pour ceux qui périssent, la folie, la prédication. Si vous êtes pécheur, si vous n'êtes pas encore converti, vous pouvez dire, qu'est-ce que c'est? Il y en a un qui m'a écrit dernièrement sur Internet un message des plus joyeux, avec un vocabulaire très fleuri. Me disant, mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Et je passe les mots quand même. N'importe quoi. Mes frères et sœurs, peut-être que vous pensez que c'est de la folie, c'est normal. La prédication, c'est de la folie pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et le diable aveugle les gens. On ne se rend pas compte, vous avez vu tout ce qui se passe dans la société. Mais franchement, et on ne sait pas tout. Mais mes frères et sœurs, le Dieu de ce siècle est en train d'aveugler l'intelligence. Notre pays et notre monde courent droit à la perdition. Notre monde court droit vers la colère de Dieu. Cette colère, elle vient. C'est écrit ou c'est pas écrit? La colère de Dieu, elle vient. Qui pourra subsister? Dieu pose la question par l'apôtre Jean. Qui pourra subsister? C'est une question sérieuse, ça. Qui pourra subsister à la colère de Dieu? Eh bien, c'est pas compliqué. Tous ceux qui sont couverts par la justice de Christ, comme cela a été rappelé tout à l'heure par Jérôme lors de la présentation de la Sainte-Seine. Tous ceux qui sont couverts par la justice de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Et il faut vraiment, mes frères et sœurs, que vous soyez sérieux. Et vous qui n'êtes pas baptisés, vous venez, vous accompagnez vos parents. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes né dans un foyer chrétien, c'est une bénédiction. Des fois, on entend les ados, « Ouais, je regrette, purée, pourquoi je suis né dans un foyer chrétien? J'aurais préféré avoir des parents païens. » Vous ne l'avez jamais entendu, ça? Moi, je l'ai souvent entendu, ça m'a brisé le cœur. Si j'avais eu des parents païens, j'aurais pu faire ce que je voulais. C'est Dieu qui a fait que vous êtes né dans ce foyer-là. C'est Dieu qui conduit tout. Pas un oiseau ne tombe sans qu'il ne le veuille. Alors, laissez-moi vous dire que si vous êtes né avec vos parents, c'est Dieu qui l'a voulu. Et que c'est une bénédiction de naître dans un foyer chrétien. Croyez-moi. Vous entendez, mes frères et sœurs? Les jeunes, là, qui des fois goupillaient un peu par rapport à votre pseudo-liberté. Vous devez considérer vos parents. Vous devez honorer vos parents. C'est écrit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse. Vous devez honorer vos parents. Si vous avez encore vos parents, honorez-les. C'est pas toujours facile, je le sais. Mais mes frères et sœurs, c'est des choses que Dieu bénit. C'est sérieux ces choses-là. Et il y a un tel aveuglement, et les gens finissent par se comparer. Voilà, mais comme je disais tout à l'heure, mais moi quand même, je ne suis pas là, je ne suis pas tombé dans ce péché obscène, violent. Moi, je trompe juste ma femme. Et on l'entend, ça, c'est pas grave. J'aime quand même la mienne. Moi, ça me fait pas rire, je vous le dis. Parce que ces gens-là, ils sont perdus. Et qu'il y a un manque d'honnêteté devant Dieu. Dieu dit pas si tes parents sont sympas ou si ton pasteur est un bon pasteur, tu peux marcher dans l'église. Le Seigneur n'a jamais dit si ceci ou si cela. Le Seigneur dit je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le Seigneur dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'a pas dit si tu es content, si t'es bien, si t'es dans une bonne église. Non, c'est un choix personnel. Nous devons chacun individuellement nous repentir et nous convertir. Le jugement, il ne sera pas plus clément parce que on a été de moins mauvais pécheurs que d'autres. Il y a des gens, ils s'imaginent que ça devrait passer pas trop mal parce que je ne suis pas un mauvais pécheur. Il y a des gens qui le pensent, je le sais, il y en a tellement qui me l'ont dit. Oh moi, vous savez, je n'ai pas besoin de me convertir, moi. Il n'y a que les païens pervers qui ont besoin de se convertir. On l'entend, ça. Et de plus en plus. Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai ma religion, ça me suffit. La religion ne vous sauvera pas. La religion, même si vous étiez dans une très 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 bonne église, si vous aviez une très très bonne doctrine, la doctrine ne vous sauvera pas, la bonne église ne vous sauvera pas, la bonne dénomination ne vous sauvera pas. Seul le sang de Jésus-Christ qui vous couvre vous sauvera de la perdition éternelle. Et si vous n'êtes pas passé par le calvaire, si vous n'êtes pas passé par la repentance, vous n'irez pas au ciel. On va lire un verset dans Jean au chapitre 3. Il faut lire ces choses. Ce n'est pas moi qui les dis. Je les dis avec ces vérités. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens aujourd'hui, tout va bien. Ce n'est pas vrai. Ça va mal et ça ira de plus en plus mal. N'écoutez pas ces prophètes qui vont vous dire que ça va aller de mieux en mieux, surtout si vous leur donnez beaucoup d'argent. Ouais. Et ça, on l'entend, croyez-moi. J'ai reçu un mail cette semaine d'un pasteur d'Afrique qui me disait que si je lui envoyais beaucoup d'argent, j'aurais une année bénie. Je réfléchis pour savoir si je vais lui répondre. Parce que bon, ça ne sert à rien de... Mais je réfléchis quand même. Jean chapitre 3, verset 36. Regardez ce verset, ce sont des versets profonds. N'oubliez pas, c'est le maître de la vie qui parle, le Seigneur Dieu incarné en Christ. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais croire, ça ne veut pas dire avoir une croyance. Croire, c'est celui qui obéit au Fils. Vous le comprenez bien. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà, la colère de Dieu. Est-ce que la colère de Dieu est sur vous ou est-ce qu'elle n'est pas sur vous? Est-ce que sur vous, il y a la grâce ou la colère? Est-ce que vous êtes en Christ ou en dehors de Christ? Ce sont des questions auxquelles vous devez absolument répondre, à quelles vous pouvez répondre. Vous ne devez pas dire, oh ben je ne sais pas, puis on verra, puis Dieu choisira pour moi. Ah oui, vous ne croyez pas qu'il a déjà choisi le calvaire? Mais quand j'entends quelqu'un qui dit, oh ben écoutez, Dieu choisira pour moi. Non, il a déjà choisi. Lorsqu'il est mort sur le bois de la croix, il a choisi de vous sauver. Et nous devons être absolument honnêtes. Absolument honnête, c'est quelque chose d'important. L'honnêteté, ça plaît à Dieu. Je dois aimer les prédications de l'amour de Dieu. Je me demande ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'il faut prêcher? L'amour de Dieu ou la sévérité de Dieu? Les menaces divines? Est-ce que Jésus en parle? Et oui, on vient d'en lire un verset. En tous les cas, moi je comprends pourquoi Dieu ne bénit pas certaines églises et ne bénit pas certaines assemblées. Parce que si on ne prêche pas l'amour de Dieu et de l'autre côté les menaces divines, parce qu'il y a des menaces, il y a des avertissements. Et si on ne prêche pas, Dieu ne peut pas bénir ce message-là. Ce n'est pas possible. Vous devez entendre certaines questions. Est-ce que vous êtes sous la grâce ou est-ce que vous êtes sous le poids de la colère? Vous rappelez quand Jésus parle du jugement des nations? C'est Jésus qui parle, c'est pas quelqu'un d'important dans votre commune, quelqu'un d'important dans votre église, c'est Jésus qui dit que certaines personnes, lorsqu'elles passeront devant Dieu, elles s'entendront dire, retirez-vous de moi, maudit. On va le lire. Je sais pas si vous lisez ces textes, moi je les lis, et je m'y applique. Pourquoi? Parce que je veux être droit devant Dieu. Je ne veux pas, si, quand je passerai devant Dieu, que Dieu me dise, mais pourquoi tu n'as pas insisté auprès de ces jeunes qui viennent depuis des années et qui sont là? Mais il y en a, vous leur dites certains, il te faut te remettre. Ouais, c'est bon, je le sais. Moi, ça m'est égal en plus. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas bien. Je ne pense pas que ça soit vraiment intelligent, ce que je vais vous dire. Que vous vous convertissiez ou pas, c'est votre problème. Mais moi, mon problème, c'est que je dois insister. Parce que quand je passerai devant Dieu, je rendrai compte à Dieu. Et j'ai pas envie que... C'est ce qui va se passer. En enfer, il y a plein de gens qui vont être furieux. Mais pourquoi notre pasteur? J'en suis sûr. Je ne sais pas comment ça se passera. C'est impossible. Mais je sais qu'en enfer, il y a plein de gens qui vont voir certains pasteurs en enfer. Vous le croyez, ça, que tous les pasteurs vont aller au ciel? Iront au ciel ceux qui ne marchent pas dans l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pour ça qu'il faut accepter le pardon et le sang. Et régler tout ce qu'on commet comme ânerie, comme bêtise, comme péché, il faut le régler. Que le soleil ne se couche pas sans qu'on n'ait pas réglé les péchés qu'on a pu commettre dans la journée. Est-ce qu'on peut le faire ça le soir? Vraiment, Seigneur, je te demande pardon, j'ai manqué de tendresse envers mon épouse. Pardon Isabelle, je te demande pardon, j'ai manqué d'affection. Est-ce qu'on peut régler ces choses? C'est bien de le faire. Tout ce qui est réglé ne sera jamais redemandé devant Dieu. Mais il y a des chrétiens, des croyants de nom, qui seront furieux contre leur pasteur après l'enlèvement, mais dans le ciel, dans l'enfer. Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Pourquoi tu n'as pas insisté? C'est comme ça que ça se passera. Vous dites, mais il est fatigué, monsieur Gou, il est fatigué. Non, il n'est pas fatigué, un peu quand même. Mais enfin, il vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Les jeunes, les ados, vous qui m'écoutez sur Internet, si vous êtes en dehors de Christ, la colère de Dieu demeure sur vous. Et ne vous imaginez pas que vous allez vous en tirer à bon compte en écoutant que Jean 3,16. Vous devez relire aussi le psaume 5, verset 6. À savoir que Dieu déteste les gens qui vivent dans le péché, dans le sens où ces gens-là sont sous la désapprobation divine. Il faut l'entendre. Moi, je suis fatigué de voir des églises où tout le monde est sauvé, même les païens. On l'entend ça, tout le monde va bien, tout le monde est sauvé. C'est des enfants de chrétiens, ben que Dieu te bénisse. Moi, j'ai été repris des fois en disant à des gens qui étaient perdus que Dieu vous bénisse. J'ai été repris. Alors, c'est difficile de rattraper la personne. Écoutez, attendez... c'est pas ça que j'aurais dû vous dire. C'est délicat, vous comprenez. Mais j'ai été repris. J'étais maladroit. Mais il y a des gens, on ne devrait pas leur dire que Dieu vous bénisse. On devrait leur dire, mais que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous amène au calvaire. Bon, ça c'est à moi de le faire. Vous, c'est peut-être pas forcément votre devoir, mais c'est le mien. Et ces moments-là, ce sont des moments solennels. Il y a des mots qui doivent être dits. Vous avez vu dans cette histoire que raconte Jésus. Je vous rappelle, Jésus vient du ciel. Vous le croyez que Jésus est le créateur des cieux et de la terre? Ou vous doutez? Vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Vous le croyez tous? Que ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ se lèvent, s'il vous plaît. Que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Que son nom soit béni. Il a tout créé dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui règle tout dans les cieux. Et ce Seigneur-là, il vient de l'au-delà, c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé le paradis, c'est lui qui a créé les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle maison, la maison que vous aurez dans les cieux, il l'a déjà certainement construite. Ça vous va? Il a tout créé, les visibles et les invisibles. Dieu, Jésus-Christ, a tout créé. Et il est venu et il a pris le temps de nous donner des histoires, des enseignements comme celui-ci, à savoir qu'il y a un pauvre. Alors, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va au ciel, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on va en enfer. Là aussi, il y a des églises où on est tombé dans le social justement pensant qu'il n'y a que les pauvres qui se convertiront. Non, Dieu aime autant les riches que les pauvres. Il y a autant de riches qui iront au ciel que des pauvres. Des pauvres, il y en aura toujours. Des riches, il y en aura toujours. Ne vous traumatisez pas à cause de l'injustice sociale. La Bible dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui a créé l'un et l'autre. Bon, on ne va pas parler sur ce sujet. Non, mais ce pauvre, lui, il s'appelle Lazare. Ça veut dire Dieu est mon secours. Il représente les gens qui dépendent de Dieu. Il est malheureux. Il est là. Il se rassasie des miettes. Vous vous rendez compte? Jésus va loin dans cette affaire. Il dit qu'il y a même les chiens qui vont lécher ses ulcères. Spirituellement, les chiens, ça représente toujours les païens. Dans la Bible, le symbole des chiens, c'est les païens. Et ça veut dire que les païens prenaient soin de lui. Ça veut dire que dans le monde, certains païens peuvent prendre soin des gens. Et on le voit. Oui ou non? C'est ça que ça craint. Parce que ça sous-entend que ça serait aux chrétiens de le faire. En tous les cas, entre nous, on doit prendre soin les uns des autres. D'accord ? Alors bon, je ne vais pas tout expliquer. Mais dans cette affaire, le pauvre, il est mort. C'était normal qu'il meure, il était malade. Est-ce que c'était normal qu'il meure ? Ben, il est mort. Mais le riche aussi, le riche n'aurait pas dû mourir, lui, parce qu'il mangeait bien. Il est mort aussi. Vous savez, on mourra tous. Vous le savez ? Vous le savez, ça ? On va tous mourir. Et on va tous partir. Et ce pauvre, bien sûr, il est reçu dans la gloire, et c'est ce qui attend tous les chrétiens. Vous ne soupçonnez pas ce qui attend tous ceux qui sont dans la gloire. Je pense que le Seigneur va nous faire une drôle de surprise quand on va partir dans l'éternité. Je crois que ça doit être très bien. À tel point que l'apôtre Paul, qui quand même savait s'exprimer et dispenser les mystères de Christ, que dit que ce qu'il a vu dans le paradis, il est impossible à un homme de l'exprimer. Il l'a dit, oui ou non ? Donc, tous ceux que vous entendez qui viennent soi-disant de l'au-delà, n'y prêtez pas trop garde. Mais ce que Jésus a vu, ce que Paul a vu dans le paradis est certainement rikiki en fonction de ce qui va se passer dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ça n'a rien à voir. Le paradis, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, pour l'éternité. Dont la gloire, l'immortalité, l'honneur, la paix, la félicité est réservée à tous ceux qui sont sauvés. Et vous pouvez dire Amen. Mais pour l'éternité, donc ça va quand même durer un moment. Vous êtes d'accord ? Et l'enfer éternel, c'est des paroles qui devraient nous faire frémir. Et quand Jésus utilise des mots aussi sévères que celui-ci, retirez-vous de moi, maudit, c'est pas l'apôtre Paul, il y a des théologiens qui taxent Paul de misogyne. Quand vous étudiez là, dans certaines facultés, les programmes, ça fait peur de voir comment certains parlent de l'apôtre Paul. C'est pas l'apôtre Paul, moi l'apôtre Paul, c'est un homme de Dieu inspiré, etc. Mais laissez-moi vous dire que c'est Jésus qui dit à une catégorie de gens qui n'auront pas fait d'œuvre parce qu'ils n'auront pas de communion avec Dieu. Le problème, ce n'est pas le salut par les œuvres. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de communion. Donc, il n'y a pas de service. Et si vous ne faites rien pour Dieu, moi, je vous conseille de vous remuer et vraiment de vous mettre à genoux et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Même si c'est un service que personne ne voit, on ne vous demande pas d'être sur l'estrade en train de faire quelque chose que tout le monde va voir. Ce n'est pas du tout ça que je vous dis. Vous devez tout savoir ce que vous avez à faire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Si vous ne faites rien pour Dieu, à moi je vous plaigne. Vous devez faire quelque chose. Le Seigneur vous le montrera. Je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans ce sujet. Mais si vous ne faites rien, c'est en vérité que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Donc vous n'êtes pas sauvé. Et si Jésus dit des paroles, mais c'est grave. Moi, j'ai toujours mon père, mais mon père, il me dirait, j'irai le voir, j'étais le voir cette semaine, je vais aller le voir dans un mois, si je lui disais, papa, s'il me disait, mon fils, je te maudis. Rien que c'est mon père qui me dirait ça, franchement, ça ne vous ferait pas de la peine que quelqu'un très proche vous maudisse. Moi, le premier, imaginez, je maudis quelqu'un. Je te maudis. Je prendrais un de mes enfants et je dirais, je te maudis. Vous ne trouvez pas que c'est déjà terrible ? Vous ne trouvez pas, franchement ? Déjà, dans la bouche d'un homme qui maudit quelqu'un de sa famille, quelqu'un de proche, c'est terrible. C'est quand même des paroles, elles sont là. Bien sûr que je le répète, Dieu est plein d'amour et plein de miséricorde. D'ailleurs, c'est peut-être la preuve. Cette prédication est peut-être la preuve. Elle est certainement la preuve. Mais Dieu dit qu'il y a un enfer éternel. Une condamnation éternelle. Et qu'après, ça ne sert à rien de faire du cinéma. Vous avez vu ce qu'il fait le mauvais riche dans le ciel ? Vous avez vu ce qu'il fait ? Il lève les yeux. C'est l'image de la personne qui, enfin, elle se met à regarder à Dieu. Mais à quoi ça sert ? C'est trop tard. Et c'est ce qui doit arriver une seconde après la mort. Les gens qui ne sont pas sauvés doivent dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que c'est pour l'éternité. Je vous disais tout à l'heure, vous avez loupé votre foyer. Ça ne vous autorise pas quand même à maintenant être léger dans le foyer. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas grave. Mais votre vie éternelle, ne la loupez pas. Parce que c'est l'enfer qui vous attend. C'est l'enfer pour l'éternité. Et quand le Seigneur dit, retirez-vous de moi, maudit, ce n'est pas écrit pour pour qu'on dise, tiens, Jésus, ah bon, l'apôtre de l'amour, c'est... mais on m'a dit que c'était l'apôtre de l'amour. Non, ça ne peut pas venir, ce n'est pas inspiré. Vous savez qu'il y a une loi qui va passer bientôt dans les mouvements religieux, qui va être votée, ça c'est sûr, une loi qui consiste à dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais que la parole de Dieu, elle est dans la Bible. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fin de compte, je prends ce que je veux de la Bible. La Bible, elle est dans la parole de Dieu. C'est clair? Oui, c'est clair. Mes frères et sœurs, c'est grave, parce qu'on prendra ce qu'on voudra de la Bible pour justifier ce qu'on voudra. C'est le comble de l'apostasie. Et c'est en train d'être préparé, ça. Et ça va rentrer dans tous les mouvements religieux, et on amènera ce qu'on appelle le syncrétisme, l'œcuménisme à outrance, et je peux vous dire que c'est pas bon. Vous avez vu la semaine dernière que le pape et le plus grand imam du monde se sont retrouvés. Croyez-moi, la religion mondiale, on y va droit devant. Et ça, ça n'aura pas l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu, elle est sur le Saint-Livre. Sur le Saint-Livre. Mes frères, n'ayez pas peur. C'est Lucas qui a mal mis le cache. Lucas, tu iras envoyer. Mes frères et sœurs, vous voyez, rien que ça, vous sautez de 1,50 m à peu près chacun. Vous voyez, à l'enlèvement de l'église, il y en a qui devraient faire des exploits au niveau du soin auteur. Mes frères et sœurs, vous y croyez à tout ça? Et quand Jésus dit certaines choses, mes frères et sœurs, c'est pour qu'on réfléchisse. Au jour du malheur, réfléchis. Si vous êtes perdu, vous pouvez avoir réussi socialement, matériellement, professionnellement. Vous pouvez être dans l'aisance et dire, moi, j'ai réussi. Mais si la colère de Dieu est sur vous, vous n'avez pas tant réussi que ça. Vous réussirez votre vie si la grâce de Dieu repose sur vous. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Ce mauvais riche, il est là. C'est Jésus qui parle. Il se trouve dans le séjour des morts. Il est là, dans un lieu de tourment éternel. Il va y avoir le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est terrible, ça. Les gens vont... Parce que le jugement, il va être parfait. Vous avez vu dans nos tribunaux comment ça se fonctionne. Il y a tellement d'encombrements. Certains jugements sont faits à la légère. Vous avez vu un peu le pataquès qu'il y a en France. Mais le jour du jugement dernier, ça ne va pas se passer comme ça. Tous les jugements seront corrects et parfaits. Et les gens qui n'auront pas leur nom inscrit dans leur livre de vie, ils seront perdus pour l'éternité. Et ça, il faut que vous l'entendiez. Ne dites pas « j'ai le temps », pensez à cette petite Valérie. Et ce n'est pas du chantage. Moi, je ne suis pas du style à faire du chantage, Dieu ne peut pas le bénir. De toute façon, Dieu ne me bénira pas si je fais du chantage. Ou si j'utilise la chair pour faire de la manipulation. Tout ça, c'est sectaire et c'est grave devant Dieu. Je vous dis qu'il y a deux chemins. Il y a la vie éternelle. Et il y a la mort et l'éternel. Et le purgatoire, c'est une invention des hommes. Et vous regarderez dans la doctrine catholique que les siècles qu'ils ont mis pour arriver à faire voter cette loi perverse, cette doctrine perverse. À savoir qu'après la mort, on peut, en fonction, surtout des gens, de l'argent que les gens donnent, rester plus ou moins de temps dans le purgatoire, 200 ans, 300 ans, 400 ans, mais qu'est-ce que c'est à côté de l'éternité, surtout s'il y a papa ou tonton qui donne des sous, voilà. Mes frères et sœurs, c'est abominable. C'est certainement la loi religieuse la plus abominable qui a été votée sur terre. Mais vous savez combien ça a pris, je crois, 6 siècles pour qu'elle soit votée. Pendant 6 siècles, ils ont débattu à la papauté pour pouvoir arriver à pondre cette loi. Vous vous rendez compte, l'ennemi, il y en a un qui est patient, je vous le dis. Mais je peux vous dire que des millions de gens sont en enfer à cause de cette loi perverse. Il n'y a pas cette alternative. Il y a ou le ciel ou l'enfer. Une seconde après votre mort, je peux vous dire que vous êtes fixé. Vous devrez l'être là. Avez-vous accepté la grâce de Jésus-Christ? Êtes-vous passé au calvaire? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Oui, j'ai réalisé un jour que j'étais un pécheur ou une pécheresse. Je sais qu'il me faut Jésus-Christ. J'ai besoin de Jésus-Christ. Il l'a dit, nu, quand, comment il s'appelle? C'est Philippe qui posait la question. Pas Koulibaly, mais Philippe de la Bible qui posait la question. Mais comment? Vous savez, quand Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Comment on peut faire pour aller? Il se posait la question, comment un homme peut aller de la terre au ciel? Puisque Jésus avait dit, voilà, je vais vous préparer une place et quand je me serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors Philippe, il dit, mais attends, mais comment un homme peut aller de la terre au ciel? Et Jésus dit, je suis le chemin. La vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, avez-vous accepté Jésus-Christ? Avez-vous accepté la prédication de la croix? Ou est-ce que ça vous énerve? Ou est-ce que c'est de la folie? Est-ce que vous auriez préféré entendre un message sur, je sais pas moi, sur un sujet archi-important, sur les trompettes de l'Apocalypse? Ah, s'ils pouvaient nous prêcher là-dessus. Oui, mais si vous n'êtes pas sauvé, à quoi ça va vous servir que je prêche là-dessus? Est-ce que vous êtes sauvé? Vous devez dire dans votre cœur, oui, je suis sauvé. Oui, je suis perdu. Et je vais régler cette affaire. Et le pasteur, il a raison d'insister. Jusqu'à aujourd'hui, il m'énervait quand il insistait. Hein, c'est pas vrai? Levez la main, ceux qui étaient énervés quand je prêchais sur la croix. Levez la main, vite, vite, je ferme les yeux. Mais il y en a que ça les énerve. Mais c'est bien, ça prouve au moins que vous êtes encore un peu travaillé. Le jour où ça vous énervera plus, laissez-moi vous dire que vous pouvez vous faire du souci parce que vous avez déjà enclenché sur la voie de la perdition d'une manière définitive. Alors moi, je ne veux pas prêcher des heures. Je voudrais juste vous dire, convertissez-vous. Vous voulez être sauvé? Repentez-vous. Vous voulez connaître la gloire éternelle? Obéissez à Dieu. Obéissez-lui. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien sûr que la foi sans un service est révélatrice de manque de communion. Mais ce n'est pas le service qui va vous sauver. Vous devez dire, je veux être un adorateur. Parce que Jésus a dit, tu l'adoreras et tu le serviras. Un chrétien, il ne peut pas ne pas servir. Mais repentez-vous. Convertissez-vous. La colère vient. On va terminer avec ce texte d'Apocalypse, chapitre 6. On va terminer par un appel aussi. On va fermer les yeux quelques instants. Parce qu'il y a peut-être une âme. Je sais que sur Internet, il y a des gens qui m'écoutent. Des milliers de gens. Et je sais très bien que ces choses sont sérieuses. Tout à l'heure, je vais vous lire un courrier d'une église évangélique protestante par rapport au site Internet. Vous allez voir ce qu'ils m'ont écrit. Je l'ai reçu ce matin. Apocalypse, chapitre 6. C'est après l'enlèvement de l'église. C'est l'ouverture des sceaux. Il y a des choses terribles qu'on ne peut pas s'imaginer. Alors c'est vrai que si on me dit c'est pas possible. Regardez, hier il a fait 10 minutes de grêle. Les grelons, ils étaient gros comment? Comme une phalange? Vous savez combien ils sont vous savez combien ils vont être les grelons pendant les trompettes? Est-ce que quelqu'un peut me dire le poids des grelons? Je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est pas normal que vous en souveniez pas. Apocalypse 16, on va revenir. Regardez, pendant les coupes de la colère. Apocalypse, chapitre 16, verset 19. Apocalypse 16, verset 19. La grande ville fut divisée en trois parties. Les villes des nations tombèrent, et d'eux se souvient de Babylone. La grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 16, verset 20. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle. Regardez bien ce qui va se passer après l'enlèvement. Ça, je vous assure que c'est après l'enlèvement. Vous ne le verrez pas, ça, les chrétiens sauvés. Mais les croyants qui ne sont pas sauvés, vous le verrez. Et une grosse grêle dont les grelons pesaient 50 kilos. Enfin, 49 kilos, 500 pour dire. Il faut quand même tenir compte, 500 grammes, c'est énorme. Tomba du ciel sur les hommes. Vous avez vu leur réaction? Regarde comment Dieu a eu raison d'enlever l'église. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se repentent? Eh non, ils blasphèment Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. C'est la coupe de la colère. Mais après l'enlèvement, c'est un truc de fou. Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Ce sont des choses terribles. L'Apocalypse, c'est pas facile à comprendre quand on ne connaît pas les symboles. Regardez, Apocalypse 6, verset... Ça, c'est au début après l'enlèvement. Il y a l'ouverture des sceaux, et c'est les premiers... L'antéchrist va apparaître... Et il va commencer son cortège de frayeurs sur la terre, que Dieu permet quand même. Apocalypse 6, verset 12. « Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secouées par un vent violent. » Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres. J'en profite pour vous dire que chaque fois qu'il est parlé des coupes de la colère, des trompettes ou des sept tonnerres même que l'apôtre Jean n'a pas eu le droit de révéler, ça touche toute la terre. Toute la terre. Se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister ?» Eh bien, que ceux qui sont couverts par le sang de Jésus. Ça, je le répète, ce n'est pas une question de perfectionnement, ce n'est pas une question de progrès, c'est une question de repentance et de conversion. Je voudrais vraiment... qu'on puisse faire se recueillir. C'est solennel. Il y a le grand jour de la colère, mais il y a eu un jour encore plus grand. C'est le grand jour du calvaire. Mes frères et sœurs, mes amis, enfants, vous qui m'écoutez sur Internet, vous qui écoutez depuis des années, vous qui êtes né dans un foyer chrétien, vous qui savez ces choses presque par cœur, où en êtes-vous? Que faites-vous? La colère vient. La colère, elle vient. Vous ne subsisterez que si Jésus-Christ est votre Rédempteur. Alors, il y a un moment donné où il faut répondre. Oui, moi, je vous parle de baptême. Ça fait 33 ans que je suis pasteur. Je parle jamais, pour ainsi dire, de prendre le baptême. Mais moi, je vous le dis, repentez-vous et faites-vous baptiser. Engagez-vous d'une façon solennelle. N'attendez pas. Ça ne vient pas de moi. Moi, je ne dis pas faites-vous baptiser. Mais je sais que Dieu me le demande. Repentez-vous. Repentez-vous. Et baptisez-vous, ça veut dire engagez-vous vraiment. Vraiment donnez-lui votre vie. Mettez-vous sous le sang précieux. La colère ne vous atteindra pas. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais moi j'ai envie, y compris pour moi, il faut que je donne ma vie à Dieu. Eh bien, on va faire un appel. Je vais demander à Jonathan de faire un cantique sur la croix. On reste recueilli. Si vous ne chantez pas, ce n'est pas grave. Peut-être que vous pensez à un de vos enfants qui est en Afrique, aux Antilles, à Toulouse ou à Bordeaux, j'en sais rien. Peut-être que vous pensez à un ennemi même, quelqu'un qui vous a fait du mal mais qui est perdu, à un rétrograde. Ce n'est pas grave s'il n'y a que Jonathan qui chante. Ce n'est pas grave, je vous assure. Vous pouvez rester recueilli ou prier pour celui qui va venir, que sa repentance soit sérieuse. Sur 10 personnes qui se repentent, il n'y en a que 8 qui tiennent. Il n'y en a qu'une qui tient. Comme dans les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu pour s'occuper du salut de son âme. Alors on peut prendre des décisions définitives. Il y a des gens qui sont convertis ici depuis 30 ans, 40, 50 ans. Eh bien, gloire à Dieu. Mais moi, je ne peux pas terminer ce culte sans faire un appel. Pour un rétrograde, peut-être il y a un chrétien à deux noms. Eh bien, n'ayez pas honte. Levez-vous devant Dieu et tout ça, ça sera effacé. Croyez-le. La seule chose que vous deviez dire, pardon. Mais dites-le lui. Dites-le lui sérieusement, pas du bout de lèvres, ouais, pardon. Faites-le. Dieu n'a jamais demandé de grandes litanies. Il demande des choses sérieuses, simples. Il y a peut-être un ado. Je le répète, votre vie ne vous appartient pas. Je le répète à ceux qui m'écoutent, à ceux qui m'écouteront, à ce CD, à ce qui va circuler, mais également aux pécheurs qui sont dans cette église. C'est peut-être le dernier appel. Mais tenez-vous-en bien, réfléchissez-y. Vous seriez furieux si vous disiez, mais comment ça c'est le dernier appel? Et même si vous viviez 10 ans de plus. Et que moi je vous dise de la part de Dieu, ce qui n'est pas le cas, c'est le dernier appel que Dieu te fait. Vous diriez, mais non, je ne suis pas d'accord. Mais ça peut arriver. Enfin, bibliquement ça ne tient pas debout, mais ça peut quand même arriver. Que ce soit le dernier appel à cause de l'endurcissement de votre cœur. Alors là, on n'est pas là pour faire du cinéma, pour regarder. Ah, mais si quelqu'un se lève, j'y vais. Tant que quelqu'un. Non, mais écoutez, si vous faites comme ça, ça ne tiendra pas de toute façon. C'est une question solennelle. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas capable de vous lever pour donner votre vie à Jésus-Christ dans une église, je me demande où c'est que vous le ferez. Dans une église, il n'y a que des gens normalement pieux qui vous portent dans la prière. Alors, pendant ce cantique, venez sur le devant, venez devant Dieu. Ce n'est pas moi qui vais prier pour vous. C'est pas les mains de Monsieur Blanc ou de Jérôme, c'est les mains du Seigneur qui vont se poser sur votre âme et vous épargner de la colère. Que le nom de Jésus soit béni.